Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Eric Orsena, bonjour, c'est un vrai plaisir de vous avoir dans le programme en français ici à la radio SBS. Vous êtes en Australie pour parler de l'eau. Pourquoi c'est si important que ça, l'eau ?
Eh bien, je ne suis pas là pour parler de l'eau, je suis là pour entendre l'eau, pour entendre qu'on me parle de l'eau et pour qu'on m'explique comment est-ce qu'on fait quand on est un pays si sec et quand on est un pays qui a tant besoin d'eau, puisque les richesses de l'Australie principales sont des richesses agricoles et minières, deux activités qui, plus que toutes les autres, ont besoin d'eau. Donc, face à cette rareté, comment fait l'Australie ? Donc, j'étais venu il y a 6 ans pour déjà entendre parler les Australiens de leur lutte pour l'eau, et je voulais voir, 6 ans après, qu'est-ce qui avait évolué.
Et donc ?
Eh bien, c'est de plus en plus intelligent. Parce qu'on se rend compte que toutes les solutions techniques existent, sont connues, et que c'est pas là-dessus que ça se joue. Ça se joue dans les questions de partage, dans les questions de solidarité, dans les questions de ne pas sacrifier le long terme à toujours l'urgence du très court terme. Ça ne se joue pas en faisant semblant de dire qu'il n'y a pas de problème. Ça se joue pas quand brutalement il y a des pluies qui tombent alors qu'on a eu des années de sécheresse en disant ça y est, il n'y a plus de problème. Donc on est obligé d'être intelligent. Et donc, c'est ce que j'ai vu. Et ce qui m'a intéressé, c'est que, à la fois dans le monde universitaire, et ça, c'était à Brisbane, à l'Université de Queensland, un institut formidable de Global Change, ou à Griffith, où ils sont vraiment très, très forts, et un peu partout dans le monde universitaire, on affine un peu les solutions. Et puis, dans l'administration, c'est-à-dire tous ceux qui gèrent le bassin de la Murray-Darling, qu'on a vu notamment à l'endroit où c'est un des plus cruciaux, c'est-à-dire en aval, comme toujours, puisque en aval, on a la conséquence de tout ce qu'on a décidé en amont. J'ai vu le Premier ministre de l'Australie du Sud, que j'avais d'ailleurs rencontré à Lyon à l'occasion de la COP des territoires. Et puis j'ai vu le ministre de l'eau et puis tous ces gens qui se battent pour essayer de d'avoir une vision commune de l'eau, parce que l'eau est normalement une école du partage, autrement c'est la guerre.
Est-ce que c'est vrai à travers la planète entière? Vous voyagez à travers le monde entier, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Australie, c'est des solutions qui peuvent aider peut-être d'autres pays comme le Bangladesh ou l'Afrique peut-être, ou des solutions doivent être propres?
Alors, ce qui me frappe, d'abord, chaque pays doit avoir sa solution, puisque vraiment, les situations des cours d'eau sont très, très différentes à tous les points de vue d'un pays à un autre. Mais ce qui me frappe, c'est que tous les organismes que j'ai rencontrés en Australie sont appelés en consultation dans le monde entier. Ils sont appelés en consultation en Chine, ils sont appelés en consultation au Mexique, ils sont appelés en consultation évidemment au Bangladesh, en Inde, un peu partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que justement, ils ont mis en place des méthodes qui sont très très riches, très très à la fois techniquement évidemment irréprochables, mais en même temps du rapport avec les populations, de l'acceptabilité et notamment de l'acceptabilité du partage. Donc c'est ça qui me frappe beaucoup. Et je me rends bientôt en Californie, qui a à peu près les mêmes difficultés, sauf que la Californie est dans le déni. Donc la Californie croit qu'elle va s'en tirer sans rien changer. Et la Californie a tort. Et je crois que la Californie ferait bien de prendre exemple sur les procédures qui sont à l'œuvre ici en Australie. Donc c'est ça qui est intéressant quand on a cette possibilité d'aller dans le monde entier, c'est qu'on compare. Et on voit les pays qui, vous savez, c'est jamais une bonne solution de jouer l'autruche.
C'est pas faux. Vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été écrivain, vous êtes académicien, vous avez été romancier, vous avez écrit des contes, et aujourd'hui, enfin, économiste à la base. Aujourd'hui, vous vivez votre rêve. Pourquoi ce combat de l'eau après le combat sur le coton? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une idée de la mondialisation derrière?
Oui, mais l'eau, c'est la première des matières premières. Moi, j'ai été économiste des matières premières. Donc j'ai travaillé sur le charbon, sur l'acier, sur le blé. Mais l'eau, c'est la première des matières premières. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de mine, puisque vous ne pouvez pas dégager le minerai de la gangue, vous n'avez pas d'agriculture et vous n'avez pas d'être humain, puisque à 80% nous sommes faits d'eau. Donc l'eau, d'abord, c'est la première des matières premières. Et ensuite, c'est un formidable miroir de nos sociétés. Et moi, je dis tout le temps, dites-moi comment on produit l'eau, à quel prix on paye, à qui on fait payer, quel prix, etc. Et je vous dirai à quelle civilisation vous appartenez. Donc, c'est pour ça. Et c'est pour ça que partout dans le monde où les gens sont responsables en matière d'eau, les questions techniques existent, bien sûr, on veut les régler au mieux, mais la question derrière, c'est la question de la société. Donc les sciences humaines sont convoquées. Donc la sociologie est convoquée, l'histoire des religions. Prenez un exemple. L'eau, partout dans le monde, c'est la pureté. C'est le symbole de la pureté. Sauf que l'eau accueille les larves des moustiques. Et plus vous développez l'eau, plus vous aurez des moustiques, plus vous aurez des maladies et plus la mort va rôder. Moi, j'ai vu ça au Vietnam, où celui, Yersin, qui a découvert le virus de la peste, le bacille de la peste, eh bien, on l'honore comme une divinité. Et en face de Yersin, on met des coupelles d'eau avec des bâtonnets d'encens. Et ces coupelles d'eau sont pleines de larves de moustiques, donc des vecteurs de mort, alors que lui a fait avancer la vie. Donc c'est ce genre de questions. Et dans le club que nous sommes en train de former, où il y a des gens qui sont des spécialistes, des gestionnaires de fleuves du monde entier, il y a des anthropologues, il y a des gens qui voient au fond c'est quoi l'eau pour quelqu'un, c'est quoi la Murray pour les populations, c'est quoi la Darling pour les populations, c'est quoi le Niger, c'est quoi le Parana, c'est quoi le Saint-Laurent. Donc c'est pas uniquement technique. Encore une fois, la technique, c'est la moindre des choses. Il faut aller au-delà. C'est pour ça que j'aime bien. Ma première formation, c'est une formation de philosophe. Et avec l'eau, je retrouve cette philosophie pratique que j'aime.
D'accord. Vous allez faire quelques recherches sur le Zika. Vous partez pour parler un peu du Zika. On est à l'aube d'un fléau. On en parle beaucoup. Vous arrivez à rationaliser ça un peu dans votre tête ou pas ?
Il n'y a pas seulement le Zika. C'est que, vous savez, il y avait beaucoup de maladies qui émergeaient et puis qui n'étaient pas transmises puisqu'il n'y avait pas de relation entre les êtres humains. Il y avait des maladies au milieu de la forêt et puis qui émergeaient, il y avait quelques morts et puis personne n'en entendait parler. Maintenant, nous sommes en contact. Donc, étant en contact, on est en contagion. Et donc, étant en contagion, évidemment, il y a des risques. Mais en même temps, il y a des réponses puisque les savoirs sont aussi en communication. Donc, c'est ça, ce monde. C'est pas tout gagnant, tout perdant. C'est que c'est un monde plus risqué. C'est un monde plus relié, étymologiquement religieux, c'est-à-dire plus relié. Et c'est ce monde-là dans lequel nous vivons. Donc il faut, encore une fois, pas jouer l'autruche et pas faire semblant qu'il faut rien changer. C'est pas vrai. Le sida est arrivé parce que on était dans les forêts. Le Zika a commencé dans une forêt en Ouganda. Et donc, comme on est en communication, le bien communique et le mal communique.
J'ai une toute dernière question. Vous parlez beaucoup de l'eau, les océans. Les océans sont submergés de plastique dans certains endroits. Est-ce que le plastique, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir ? Quand on réfléchit aujourd'hui que du plastique, ça met 300, 400 ans à être détruit, mais que l'œuvre industrielle du plastique, ça a 100, une centaine d'années, chaque molécule de plastique qui a été construite sur cette planète depuis le début est encore sur cette planète. Ça vous fait réfléchir, ça, ou pas ?
Ça me fait pas seulement réfléchir, ça me fait agir. Et j'ai accepté d'être actionnaire d'une société qui s'appelle Carbios, qui essaye de trouver le recyclage du plastique, pas du tout de manière traditionnelle, c'est-à-dire en broyant le plastique avec des lanières qui peuvent s'infiltrer jusque dans la nappe phréatique et ou alors dans la mer et être dévorées par les poissons, avec des tas d'ennuis de toutes sortes, non par des procédures naturelles, c'est-à-dire des cocktails enzymatiques. C'est-à-dire, moi je suis peut-être intellectuel au sens où j'ai fait des études, encore une fois, de sciences humaines, de philo, etc. Mais enfin, j'aime bien trouver des solutions. Donc, et là, il y a des solutions. Et c'est un monde dangereux, mais un monde plus dangereux que jamais, mais un monde où il y a plus de solutions que jamais. Donc, je suis optimiste et par tempérament et par réalisme aussi, et par morale, mais sans être complètement naïf. Donc la question, je suis navigateur, donc imaginez qu'il y a une sorte de continents flottants comme ça au milieu de chacun des océans avec le jeu des courants, évidemment, ça me dégoûte. Et ça serait facile. Ça serait facile de dire qu'on arrête le plastique. Et avec des mécanismes très simples. Si vous faites payer un minimum, vous n'avez plus de plastique. De la même manière que si vous avez un prix du carbone, vous accélérez la métamorphose nécessaire. On ira vers ces métamorphoses-là. Donc gagnons du temps. Parce qu'autrement, on est en train quand même de léguer à nos enfants une planète qui n'est pas formidable. Hein.
Eric Orksena, merci.
Merci.
Vous voulez rester en contact avec nous en dehors des heures de diffusion ? Dans ce cas, rendez-vous sans tarder sur Facebook ou Twitter. Vous y trouverez des informations insolites, des photos de notre équipe en studio ou en action, des impressions à chaud de nos reporters partis sur le terrain et bien plus encore. Deux adresses à mémoriser, facebook.com/sbsfrench et sur Twitter, on est @sbsfrench. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. À bientôt.